Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. C'est vraiment un privilège pour moi d'être ici et d'apporter le message dans cette série sur la prière. Est-ce que vous allez bien ce matin?
Oui.
C'est une question, alors vous êtes là pour répondre avec moi. Est-ce que vous êtes bien? Vous allez bien ce matin?
Oui.
Je suis content vraiment d'être là. C'est un privilège à chaque fois d'apporter le message. Et vraiment, on est la belle et grande famille de Nouvelle Vie. Aujourd'hui, Pasteur Claude est à la Prairie. Moi, je suis ici à Longueuil. Mais c'est le même message partout, la bonne nouvelle de l'Évangile qu'on apporte. Et peu importe si tu es là depuis 30 ans ou si tu viens d'arriver aujourd'hui, Dieu a une parole pour toi. Et tous ceux qui le croient, est-ce que vous pouvez dire amen à ça? À chaque fois qu'on se réunit à l'église, à chaque fois qu'on entend la parole de Dieu prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, Dieu parle à nos cœurs. Et c'est pour ça qu'on est dans une série à chaque début d'année où on commence par enseigner sur la prière, les prières de la Bible. Et on reçoit beaucoup de témoignages. Merci pour les centaines de personnes qui écrivent et qui nous témoignent combien cette série change leur manière de voir la prière. On a eu des soirées de prière lundi pour les femmes, mardi pour les hommes. On a vraiment vécu des temps incroyables ensemble. Mais ce n'est pas seulement le premier mois de l'année, ça continue chaque jour parce que la prière est efficace. La prière du juste a une grande efficacité. Et si vous le croyez, je vous invite à être défié à monter encore plus, à monter un palier dans votre vie de prière, à être défié à faire des prières avec encore plus de foi. Si vous n'avez jamais prié, vous êtes au bon endroit parce qu'on apprend ensemble à marcher, à développer notre vie de prière, à approfondir nos connaissances parce que Dieu veut toujours qu'on soit de plus en plus proche de son cœur en relation avec lui. Et tous ceux qui croient à la puissance de la prière, est-ce qu'on pourrait applaudir et remercier Dieu pour le moyen qu'il a choisi qu'on puisse connecter avec lui? La prière est le moyen que Dieu a choisi pour communiquer avec l'humanité, pour qu'on puisse ensemble discuter, être en relation. Plus tu passes de temps dans la prière, plus tu comprends ce que Dieu veut pour ta vie. Et c'est là où, comme un peu, vous avez déjà vu des amis de longue date, parfois ils n'ont pas forcément besoin de se dire grand-chose et ils se comprennent rapidement. Ou comme des couples. Parfois, je suis avec des amis, on est en train de parler d'une situation, et puis là, c'est une situation où peut-être ma femme n'aurait pas voulu forcément que je parle de cette situation ou du contexte, et puis là, je suis en train de rire avec les amis, et je vois juste le regard de mon épouse. Un soupir de sa part, juste une respiration d'un certain ton. Et là, tout de suite, je sens que mon regard change, et puis là, ça change toute la donne. On le connaît, tous ces regards. On n'a pas besoin d'écrire des grands paragraphes pour se comprendre, vous êtes d'accord avec moi? Au plus on passe du temps dans la prière, au plus on comprend le cœur de Dieu. Au plus Dieu change notre cœur et fait que nous puissions faire sa volonté. Et aujourd'hui, c'est vraiment un honneur pour moi d'apporter dans la prière. À chaque début d'année, même si ça fait des années que j'étudie sur la prière, à chaque fois Dieu me parle d'une manière nouvelle. Et je crois réellement que nous puissions avoir un cœur ouvert, des oreilles attentives, parce que Dieu a un message à parler à travers moi. Et ce sont des simples mots qui vont résonner, mais que le Saint-Esprit va faire que nous allons comprendre ce que Dieu veut pour moi. Est-ce que vous dites amen avec ça? La prière, c'est la chose la plus simple au monde. Croyez-moi, je suis pasteur. La prière, c'est la chose la plus simple au monde. De parler à notre Dieu, à notre Créateur, c'est la chose la plus simple au monde. Mais laissez-moi vous dire, parce que je suis pasteur, que parfois la chose la plus simple au monde peut devenir la chose la plus compliquée au monde. Et tout le monde rit parce qu'on le sait. Et puis, ce n'est pas seulement pour quelqu'un qui vient de commencer dans la prière depuis quelques semaines et il ne sait pas vraiment comment prier. Non, non, non. Parfois, c'est l'inverse. C'est des gens qui savent tellement comment prier, quelle prière faire, quel verset exactement, dans quelle référence biblique, que parfois, on passe par un moment de sécheresse, un moment de crise de foi. Et là, la prière qui était à la base toute simple, d'une relation tellement innocente, tellement pure entre Dieu et nous, devient quelque chose de complètement difficile. Est-ce que vous pouvez dire amen, juste pour encourager ceux qui pensent qu'ils sont tout seuls? Je dis amen moi-même parce que j'ai déjà passé des situations dans ma vie où c'était tellement difficile. Je savais que Dieu m'entendait, mais j'avais tellement de combats en moi que la prière devenait la chose la plus compliquée à faire. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Comment prier quand je doute ?» Quand je doute de tout, comment continuer à prier ? Est-ce qu'il faut continuer à prier ? Est-ce que ça en vaut le coup ou est-ce que c'est complètement hypocrite de ma part ? Je sais que ce message va résonner à plusieurs parce que dans ma vie, dans les saisons de ma vie, où j'étais parfois chrétien depuis des années, où je pratiquais la prière, il y a eu des saisons pour moi où j'avais besoin que Dieu me rappelle, que lui continue à m'aimer, qu'il veut toujours m'entendre, même si des fois c'est difficile que moi je lui parle, juste d'être dans sa présence. Dieu vient et il guérit. Et ce matin, je veux le croire, il y a des personnes ici qui vont être guéries, qui vont être ressourcées. Si tu passes par un désert, il est la source inépuisable. Et toi, ton désert va se changer en un jardin de fleurs parce qu'il va faire pousser quelque chose de beau. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui est là, patient, persévérant avec nous? Quelqu'un a dit, le doute fait partie de la vie chrétienne. Le problème n'est pas le doute, mais ce que tu fais avec. Le doute peut nous paralyser, pas seulement d'une manière spirituelle. Dans la vie de tous les jours, le doute, l'indécision peut complètement nous paralyser. Je me souviens, il y a quelques années, alors que j'étais aux études, mon rêve de toujours a été de faire comme mon père, d'être pompier. Alors pour moi, c'était comme un rêve d'enfant. J'ai tout fait pour être pompier. Et puis j'avais l'impression que j'aimais tout ce qui se représente aux pompiers. Sauver les gens, aller braver le feu, essayer d'être... C'est un peu comme un héros. Vous êtes d'accord avec moi? On a comme... Alors, dans mon enfance, je me suis toujours dit, je vais être pompier. Donc, lorsque les concours pour être pompier ont commencé à s'ouvrir, je me suis inscrit. Puis avec quelques amis, on a comme passé le concours. Et puis on a étudié pendant des mois. Et il y avait des examens. Il y avait des examens d'aptitude physique, le sport, le français, le maths et l'oral. Et moi, pour moi, le sport, j'ai travaillé, mais c'était pas forcément la chose la plus, ce que je redoutais le plus. Le plus, c'était les mathématiques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous me voyez où je vais en venir. Et là, je travaille pendant des mois, je réussis l'examen du sport, haut la main, c'est génial. Vient l'épreuve de français, je ne suis pas si mauvais, alors je travaille fort, et je réussis le français, alors je me dis, ça va bien. Puis je prie, je crois que c'est la volonté de Dieu pour moi. Et alors que j'arrive à l'examen de maths, j'avais révisé pendant des mois, c'était sans doute l'épreuve que j'avais le plus révisé. Il fallait connaître des formules géométriques. Ce n'était pas quelque chose de complètement difficile, mais moi, je ne suis pas bon en maths. Okay? Est-ce que quelqu'un peut lever la main juste pour que je ne me sente pas tout seul? Merci. Il y en a, ils sont bons en maths, mais juste par compassion, ils disent « ouais, ok, on aime ». Mais pour moi, ça s'embrouille complètement. Alors je travaille fort, je mémorise. Et quand j'arrive, le jour J, je stresse. Je n'ai jamais prié autant de ma vie. Et là, je suis devant ma feuille, puis je pense que c'était un 4 heures d'épreuve. Et j'ouvre ma feuille. Et là, il y avait des milliers de personnes avec nous. C'était vraiment un concours national. J'ouvre ma feuille. Et alors que je connaissais normalement 99% de toutes les sphères, les choses, les formules, la seule que je ne sais pas, c'est celle qui détermine tous les 4 heures. Seigneur, c'était quoi? Je me souviens encore, ça m'a hanté jusqu'à aujourd'hui. Le cône cylindrique. Vous rigolez parce que vous ne saviez même pas que ça existait, vrai ou pas? T'es comme, mais hélas, cet élément-là, en fait, c'est lui qui fait que tous les 4 heures et tout le reste découle de cette... Puis j'étais comme, ok, mais je dois commencer par le cône ou le cylindre. Est-ce qu'il faut les multiplier, les additionner? Je ne savais plus, ça s'embrouillait. Et là, le doute commence à prendre. Les gouttes de sueur commencent à couler. Je ne sais pas où aller, quoi choisir. J'ai des options devant moi, j'essaie, mais le doute me paralyse. Puis ce qu'il ne faut surtout pas faire dans un examen quand tu doutes, c'est regarder en arrière de toi. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont là. Ah ouais, oh, je peux avoir une feuille s'il vous plaît, il n'y en a pas assez, les gars. Et pendant une heure et demie, je prie, Seigneur, donne-moi, s'il te plaît, la mémoire, quelque chose, viens, s'il te plaît, me révéler. Puis là, réellement, le doute me paralyse, je ne peux rien faire. Et à un moment donné, au bout d'une heure et demie, 2 heures, je commence à dire, ok, prends une avenue, puis assume. Et puis là, par la foi, j'y vais, j'assume, je commence, puis j'y vais. Puis en 2 heures, j'essaye de finir in extremis. Je donne tout ce que j'ai, je rends ma copie et je sors. Et là, surtout, il ne faut pas parler à quelqu'un. Parce que quand quelqu'un dit « Ah ouais, la formule c'était 42 de pi, puis toi t'as trouvé bleu », t'es comme « Mais ça marche pas, il faut juste fermer tes oreilles, partir chez toi ». Quelques semaines après, je prie tous les jours « Seigneur, l'enveloppe va arriver, puis Seigneur, merci ». Et là, quand je reçois par la poste l'enveloppe, je vous le dis, je stressais, mais j'étais comme « Ok ». J'ouvre l'enveloppe, et vous savez quoi? Je suis devenu pasteur. Quelqu'un un jour, pour me rassurer, m'a dit « Oui, mais maintenant, tu éteins d'autres feux. » Oui, mais quand même. À ce moment-là, le doute, l'indécision m'a comme paralysé. Je ne savais pas quoi prendre. Puis, on rigole avec cette illustration, mais pour certains, vous, dans votre vie spirituelle, vous êtes paralysé depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Tu sais qu'il y a un chemin, tu sais qu'il y a une solution, mais tu n'es pas capable de choisir. Tu n'es pas capable de persévérer en se disant « Je pense que c'est ça. » Non, j'ai tellement le doute que je suis arrêté. Et tout continue, et j'ai l'impression même de reculer. Laisse-moi te dire aujourd'hui que celui qui a le doute vienne à Dieu avec ses simples mots, ses simples doutes, tout ce qu'il a. Et Dieu t'aime tellement qu'il t'accepte tel que tu es. Mais il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu restes tel que tu es. Oui, le doute fait partie de la vie chrétienne, comme n'importe quelle tentation. Mais tu n'es pas appelé à subir le doute et à vivre comme ça. Non, Dieu veut te relever de donner la vérité, une vérité qui libère. Que ceux qui l'ont vécu puissent applaudir notre Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous dans la Bible un homme, un héros de la foi, Gédéon, la vie de Gédéon. Et par la vie de Gédéon, on va voir combien un homme qui doutait de Dieu, qui doutait de lui, qui doutait de tout le monde, comment Dieu a agi avec lui pour en faire un des guerriers, de celui qui a libéré le peuple d'Israël, et combien pour nous il peut être un modèle. On va lire la Bible dans l'Ancien Testament, dans Juges chapitre 6. Si vous avez votre Bible, prenez-la, surlignez, il y a des points que je pense que Dieu va vous donner des clés. Et si vous n'avez pas votre Bible, ça va apparaître sur l'écran. Mais par la vie de Gédéon, qui a vécu 1200 ans avant Jésus-Christ, on va voir que le doute fait partie de la vie chrétienne depuis toujours. Comme quoi, les problèmes de l'humanité restent les mêmes. Mais combien la vérité qui était pour Gédéon sera la même que pour nous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord? La vie de Gédéon, 1200 ans avant Jésus-Christ, il a vécu. Et alors qu'il va lui avoir une discussion avec Dieu. Pour nous, on sait que la prière, c'est le moyen de rentrer en relation avec Dieu, de parler avec lui, d'avoir une discussion avec lui. Nous croyons que Dieu est esprit, que même sa présence est ici. Dans la louange, tout à l'heure, on l'a senti, la présence de Dieu est là. Mais il y a des hommes et des femmes qui, dans l'Ancien Testament, il y a des millénaires, ont vu face à face quasiment Dieu. Il y a des hommes comme Moïse, comme des gens qui ont vu Dieu, l'ange de l'Éternel. Là, on va voir que Gédéon a parlé avec Dieu. L'ange de l'Éternel, ce qu'on appelle en théologie une christophanie, c'était Dieu lui-même, l'ange de l'Éternel, comme Christ dans l'Ancien Testament. Et alors qu'il va parler avec lui dans ce qu'on pourrait appeler pour nous la prière, Gédéon va se livrer, mais Dieu va lui donner des réponses et ça va changer toute sa situation. On va regarder ensemble et je vous donne le contexte dans lequel ce texte arrive. Le contexte de Juges 6, c'est que le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu. Il a voulu choisir sa propre voie, il a été rebelle. Dieu lui avait demandé de suivre et d'obéir à sa voix et que tout irait bien pour ce peuple. Mais alors que lui a dit, comme beaucoup d'entre nous ici parfois, « Non, non, je veux choisir ma propre volonté, je veux faire ce que moi je pense être bon pour moi. » À ce moment-là, il s'enlève d'une bénédiction et là, il y a beaucoup de choses qui leur arrivent. Et là, on voit que le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu et il est sous l'oppression d'un peuple barbare qu'on appelle les Madianites. Depuis 7 ans, ce peuple-là arrive et il décime tout sur leur passage. La Bible nous dit que c'était comme un nuage de sauterelles qui arrivait et qui décimait tout. Ces gens-là étaient comme un peuple barbare qui venait, qui volait les récoltes, les bétails. Ils faisaient un carnage sur leur passage. Alors le peuple d'Israël, à ce moment-là, était complètement sous cette oppression, sous cette peur. Et ce peuple se cachait dans les montagnes. Le peuple de Dieu se cachait dans les montagnes. Et alors que le peuple, à ce moment-là, crie à Dieu, « Le libérateur, on a besoin de toi, que tu viennes nous sauver, que tu nous donnes une victoire pour qu'on puisse vivre en paix dans le pays que tu nous as donné. » À ce moment-là, Dieu répond à son peuple comme un père qui répond à son enfant qui lui demande de l'aide. Et là, il va envoyer des libérateurs. C'est ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament les juges, les libérateurs. Et puis, des hommes et des femmes qui ont été envoyés pour Dieu pour une mission. Ces gens-là représentaient ultimement l'œuvre que Jésus allait venir faire pour nous. Nous n'avons plus besoin d'attendre un homme, un libérateur. Il est déjà venu, son nom est Jésus-Christ. Et si nous croyons à son œuvre, nous avons la victoire, nous sommes plus que vainqueurs. Et alors qu'à ce moment-là, Dieu vient parler à Gédéon d'une manière incroyable. Dans cette discussion-là, Gédéon va se livrer à lui et puis on va voir combien Dieu va le fortifier et va l'emmener à être l'homme, un guerrier incroyable, quelqu'un qui va avoir la victoire pour la gloire de Dieu. Et on va lire pour nous aujourd'hui. Juges 6, chapitre 6, versets 11 à 16. On le lit ensemble. « Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. » Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont donc tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur !» Je sais, vous n'avez pas l'audio dans votre Bible, mais moi je l'ai. Je sais exactement comment il a répondu, ok ?« Ah, mon Seigneur ! Avec quoi délivrerai-je Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Amen. La première chose qu'on voit dans ce texte, c'est que Gédéon doute de Dieu quand Dieu vient l'appeler. Et pour nous, dans notre prière, c'est comment continuer de prier quand je doute même de Dieu? Comment tu fais quand tu dois prier à Dieu et que tu doutes même de sa présence, même si tu l'entends? Alors que Dieu vient voir Gédéon, alors qu'il lui dit, il le salue, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Tout de suite, on voit Gédéon, « Non, 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 on se calme. La salutation, on va se calmer. » Voici, il démarre au quart de tour. Vous avez déjà vu des gens qui démarrent au quart de tour? Cette semaine, je parlais avec quelqu'un, je passe dans les bureaux et puis je dis, « Hey, salut, ça va? Tranquille. » La personne me regarde, « Quoi? J'ai pris des kilos? » Je suis comme, « Non, 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 non. » J'ai juste dit, « Bonjour, c'est tranquille. » Il y a comme un quart de tour. Okay, qu'est-ce qui se passe? Gédéon n'était pas prêt à une salutation comme ça. Alors que Dieu vient puis il l'encourage quasiment en lui disant une salutation tout de suite, non. Et Gédéon commence à faire sa liste de doléances. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout ce mal nous arrive-t-il? Et si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout le bien qui devrait nous arriver ne nous arrive pas? Gédéon est là et il ne fonctionne pas comme non, non, non. Ah oui, je te crois, au contraire, il doute même de Dieu. L'Éternel nous a abandonnés. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu viens dans ce premier mois de l'année et puis alors qu'on te lance une vision et la prière cette année, on va aller et on va être en relation avec Dieu. Toi, tu t'arrêtes tout de suite en disant non, 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 non. Dieu, pourquoi il permet que tout ce mal arrive dans ma vie? Et pourquoi je vois les témoignages des gens autour, mais que moi, ça ne m'arrive pas? Pourquoi en ce moment, alors que les gens, il y en a qui prospèrent dans leur vie spirituelle, moi, j'ai l'impression d'être dans un désert et ça continue. Pourtant, je ne veux pas être là. Peut-être c'est toi qui démarres au quart de tour à chaque fois que quelqu'un essaie de t'encourager, et puis tout de suite, tu trouves une excuse. Et Dieu n'est pas en train de te dire, « Ah, voici, regarde, t'es vexé, puis c'est comme ça. » Non, non. Dieu ne fait pas comme, « Ok, ben, si c'est ça, tu doutes de moi, on n'est plus ensemble, je ne te parle plus, je suis vexé. » Non. On voit que même si Gédéon doute de Dieu, on voit que Dieu continue de lui parler. On dirait que Gédéon est en train de dire, « Hey, non, l'Éternel nous a abandonnés, c'est pas possible que je vis tout ça en ce moment. L'Éternel ne nous entend pas. Peut-être que toi, en ce moment, tu dis, je prie, j'ai beau continuer, mais j'ai l'impression que ça ne change rien. » Gédéon, il y a 1200 ans avant Jésus-Christ, ça fait des millénaires, il vivait peut-être la même chose que toi. Mais Dieu continue de lui parler. Il continue de lui parler. Et puis voici une vérité ici. Dieu ne s'est pas dit, « Ok, si tu doutes de moi, c'est fini entre nous. » Au contraire, la vérité, c'est que même si toi, aujourd'hui, tu peux être vrai avec Dieu, tu peux lui faire connaître tes doutes, tes frustrations, lui exprimer ta colère, tu peux lui dire, « Voici ce qui se passe en ce moment, je ne comprends pas ce qui arrive. » Mais pourtant, Dieu continue de lui parler comme Dieu continue de t'aimer. Dieu continue de t'inviter, de dire, « Peu importe comment toi tu te sens en ce moment, même si tu penses t'éloigner de moi, moi je ne m'éloigne jamais de toi. » Continue de parler à Dieu, même si tu es frustré. La première personne à qui tu dois donner ta frustration, ta colère, ton incompréhension, c'est Dieu. Avant de l'écrire sur les réseaux sociaux, va à Dieu. Et tu verras que tu n'auras pas besoin de l'écrire sur les réseaux sociaux. Hein? Petite parenthèse. Mais il y a quand même quelque chose de fort parce que, alors que Gédéon est là, il est vrai devant Dieu, mais Dieu continue. Mais le problème, c'est que Dieu ne se justifie pas. Il ne commence pas à répondre aux questions que Gédéon lui pose. Vous avez vu? Gédéon lui dit, mais pourquoi tout ce mal nous arrive et pourquoi tout ce bien ne nous arrive pas? Dieu ne se justifie pas. Parfois, la réponse que tu attends de Dieu n'est peut-être pas celle que Dieu te donne. Dieu n'a pas à se justifier parce que nous croyons que tout concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Si tu aimes Dieu, tu n'as rien à craindre, que même si en ce moment il y a les tempêtes dans ta vie, crois que Dieu va s'en servir pour t'amener plus haut, va t'amener pour être plus proche de lui. Tu n'as rien à craindre parce que tu es en lui et personne ne peut te ravir de sa main. Même tes doutes, même tes incompréhensions et ta colère. Dieu ne se justifie pas, il ne donne pas la réponse que Gédéon attend. Mais par contre, Dieu va continuer de lui parler et il va lui donner une parole. Au verset 14, « L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon est en train de douter de Dieu, mais Dieu continue à l'appeler en disant, « C'est toi que j'ai choisi pour faire une différence dans cette situation. » Mais la parole de Dieu à ce moment-là, il est en train de lui dire, « Fais-moi confiance. » Même si tu doutes, même si tu ne comprends pas ce qui arrive en ce moment, fais confiance à ce que je te dis. Obéis à mon commandement, même si tu ne comprends pas exactement toute l'équation de ce que ça va donner, aie confiance dans la simplicité de ma parole. Il va dire, N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Va avec la force que tu as. » Il lui donne un ordre, il lui donne une parole, et Gédéon doit seulement, sans justification aucune, continuer à dire « Sur cette parole, j'avancerai. » Aujourd'hui, peut-être tu dis « Ouais, mais je n'entends pas Dieu me parler. Je ne sais pas ce qu'il est en train de me dire. » Si tu cherches une réponse de Dieu, mais que ta Bible est fermée, c'est comme si tu attendais un appel important alors que ton cellulaire est éteint. Il faut que tu ouvres ta Bible parce que c'est là la parole révélée de Dieu. Gédéon, oui, a eu une discussion avec Dieu, il s'est livré dans la prière, dans sa discussion, mais Dieu lui a donné une parole. Nous avons l'entièreté de la parole de Dieu. Nous croyons que ce n'est pas seulement un vieux livre millénaire avec des bons conseils, c'est la parole vivante de Dieu, que quand tu la lis, c'est elle qui te lit, elle te donne des réponses à tes questions, elle te donne « voici, ne va pas dans ce danger ». Ça, c'est la parole que Dieu te donne. Aie confiance en la parole. Ça pourrait paraître paradoxal, des gens qui disent « Ouais, mais si je doute de Dieu, je vais devoir croire la parole de Dieu. » Mais tu vas croire quoi d'autre sinon ? À quel autre irions-nous qu'à toi ? Il n'y a que toi qui connais les paroles de la vie éternelle. C'est toi la vérité, la vie. Mais quelqu'un dira « Ouais, mais si je doute, je vais où ? » Ben, tu vas encore plus dans le flou. Et c'est pas pour jeter le blâme, mais en fait, je vois des gens, des amis à moi, être en déconstruction de foi parfois. Puis ils disent « Ouais, mais il y a des choses que je ne comprends pas. » Et puis, comme ils ne comprennent pas toute l'équation, ils remettent en cause tout ce qu'ils croient et tout ce qu'ils ont déjà vécu. Tu ne comprendras pas toute la vie, tous les problèmes. Tu n'auras pas réponse à tout. Et encore moins loin de Dieu. Tu seras encore plus dans le flou. Le sens de la vie, ben pour toi, ça va être encore moins. Donc, tu vas t'en aller vers encore plus d'incompréhension. Alors que celui qui croit que « Seigneur, même si je doute, même si j'ai des doutes, je veux décider de croire en ta parole et de continuer à prier selon ta parole. Parce que toi, tu es le Dieu qui est droit, qui est vérité, qui est vie. Et même si parfois je doute de toi, je décide quand même de rester accroché à toi. » Il faut que tu restes dans la parole de Dieu. La même parole que Dieu a donnée à Gédéon, c'est que même quand tu lui donnes tes doutes, il dit « Aie confiance, fais-moi confiance. » Dis à ton voisin « Fais-lui confiance. » Fais confiance à sa parole. Fais confiance et écoute son commandement. L'antidote au doute sur Dieu, c'est de croire à sa parole et d'obéir à ce qu'il nous dit. Même si je n'ai pas toute l'explication et que je ne sais pas où ça va me mener, je sais et je veux croire. Même si je doute, je veux quand même croire qu'il me mènera à bon port parce qu'il est doux, il est fidèle, il est juste. Il fait tout pour le bien. Il transforme même le mal en bien. Si en ce moment tu es en train de t'éloigner, rassure-toi que quand Dieu vient dans l'équation, tu reviens toujours dans la bonne voie. Et si tu as un manque de foi en Dieu, la Bible le dit, hein, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y en a, tu doutes de Dieu, mais tu t'éloignes de la parole. Il faut vraiment que tu reviennes à la base. Parce que Dieu a quelque chose à te dire. Et combien ont déjà entendu parler Dieu au travers de sa parole ? Est-ce qu'on peut applaudir pour tous ceux qui croient en ce moment, qui se disent « Dieu ne me parle plus ». Et parfois, la réponse de Dieu, c'est son silence. Mais il faut que tu continues d'avancer. Soit tu crois tes doutes, soit tu crois la parole. Mais laisse-moi te dire qu'il y en a une seule qui est solide. C'est la parole de Dieu. La Bible nous donne de comprendre le plan de Dieu et de l'entendre nous parler. Et vous savez, à chaque fois que je prêche ce message, je sais que parfois, pour des gens, ça paraît fou. Mais Dieu veut tellement parler, bien plus que toi, tu ne veux l'écouter. La dernière fois, j'étais en train de faire une lecture de la Bible à mon fils avec une Bible comme ça, une Bible d'enfant. Puis ce n'est pas forcément celle-là, il y en a plein d'autres. On a plusieurs livres chrétiens pour... Mais c'est une Bible qui raconte en un paragraphe la vie de quelqu'un. C'est quand même assez réduit. Mais je vous le dis, alors que j'étais en train de lire avec lui, il apprend à lire en ce moment, alors que j'étais en train de lire avec lui, je vous le dis, la parole de Dieu m'a parlé au travers d'une Bible pour enfants. Parce que Dieu cherche continuellement à nous parler, continuellement à te révéler des choses, à révéler des clés pour ta vie, à te dire combien parfois tu as besoin de revenir, à te confronter, à t'encourager. Ce n'est pas juste un livre de motivation que tu ouvres pour être motivé. Non, parfois c'est de la confrontation. Mais la confrontation pour t'enlever et te ramener du mal au bien pour que ta vie puisse fleurir et pour que tu puisses démontrer sa lumière autour de toi. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si en ce moment, puis je voudrais défier les jeunes parents en ce moment, si tu as arrêté de lire la Bible à tes enfants, si tu as arrêté de les exhorter le soir avant de dormir, reprends les bonnes habitudes. Parce que tu es en train de semer quelque chose dans une bonne terre. Ne laisse pas seulement à NV Junior le dimanche, qui font un travail incroyable. Mais ce n'est pas à eux à les éduquer dans la parole de Dieu, c'est à toi à le faire. Eux sont un soutien, comme nous, ici à l'église. Nous sommes là pour t'encourager à aller à Dieu, mais c'est à toi d'y aller. Est-ce qu'on pourrait encourager tous les jeunes parents pour leur dire « une vérité dans ce livre-là. » Il y a une révélation dans la parole de Dieu, mais Gédéon a dû comprendre que même au travers de ses doutes et son incompréhension, il devait quand même obéir à Dieu et croire qu'il était bon pour lui. Comment prier quand je doute de Dieu? Le deuxième point qu'on va voir au travers de la vie de Gédéon, c'est comment prier quand je doute de moi? Alors que Gédéon dit, ok, je comprends, tu es là, tu veux m'envoyer, parfait. Mais voici l'autre problème. C'est que peut-être que je vais te faire confiance maintenant, mais je ne me fais pas confiance à moi, je doute de moi. Gédéon dit au chapitre 6, verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » Il était en train de dire, « Je suis le dernier des derniers. » Le plus petit dans sa famille la plus pauvre de son clan, et Manassé était en fait une des plus petites tribus d'Israël. J'ai l'impression que Dieu l'a fait comme exprès, à dire, on va aller chercher le dernier des derniers qui se pense complètement insignifiant, mais c'est par ses faiblesses que je vais montrer ma force. C'est pour ça que même si en ce moment tu te dis, ah, oh, j'ai rien pour moi, j'ai juste quelque chose, mais j'ai l'impression même tout est brisé, Dieu va te dire, exactement, t'es la bonne personne, t'es qualifié pour que ma gloire passe à travers toi. Et malgré tes doutes sur moi, malgré tes doutes sur toi, en fait, comprends que ce n'est pas à propos de toi, mais c'est à propos de lui. Je ternais ma famille, petit, pas assez. Oh, Gédéon a toutes les excuses. Dieu est en train de l'encourager, mais il a toutes les excuses. Est-ce que c'est ton cas aussi? Quand on te motive et qu'on t'encourage et qu'on t'enseigne sur la prière, et puis tu as comme toutes des excuses. Ouais, mais je n'ai pas le temps, c'est difficile, je n'arrive pas à me lever tôt, je me couche trop tard. Mais en même temps, tu regardes 4 saisons Netflix en une matinée. T'es comme, oh. Reprends les bonnes habitudes. Mais arrête de trouver des excuses, trouve des solutions dans la parole de Dieu. Gédéon a toutes les excuses, il n'a pas le bon focus. Il est en train de se tromper de cible, il perd son énergie à regarder ce qui lui manque et à regarder ce qu'il a, alors qu'en fait, Dieu est en train de lui dire, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de moi. Ne perds pas ton énergie, arrête de dire, mais je peux pas prier, j'ai pas assez de foi, j'ai pas assez de connaissances, je ne sais plus comment faire ci, comment faire ça, il y a rien qui fonctionne. Arrête de dire, je ne suis pas assez parfait, je ne suis pas assez digne. Non, tu n'es pas assez digne, mais Jésus à la croix a tout donné, il a tout accompli pour que nous puissions venir et en lui recevoir une victoire qui lui appartient, mais pour sa gloire. Alors arrête de regarder à toi, regarde à Dieu. Dieu veut lui rappeler à Gédéon que c'est par toi que je vais donner la victoire. L'Éternel lui répondit, parce que là encore, Dieu est patient et persévérant. Ce n'est pas parce que Gédéon a toutes les excuses. Non, Dieu a toutes les réponses à ses excuses. L'Éternel dit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » La réponse de Dieu est en fait, « Je ne suis pas assez, je ne suis pas assez, mais moi je serai avec toi. » C'est la même réponse que Moïse a reçue de la part de Dieu. Quand Moïse avait été, tu iras vers Pharaon et tu délivreras mon peuple. Mais pas moi, je ne sais pas parler, je ne sais pas là. Mais moi, je serai avec toi. Il faut que tu regardes pas non plus ce que tu as, il faut que tu regardes à qui tu as en toi. L'antidote au doute sur toi-même, c'est de comprendre la présence de Dieu, que Dieu est avec toi dans tes combats, que dans le temps de prière, Dieu est là et il veut te guider plus proche de lui. Fixe les yeux sur Jésus. Plus tu regardes à toi, plus tu verras tes limites, plus tu verras tes problèmes. Mais plus tu regardes à Jésus, plus tu verras les solutions, tu verras l'avenir et l'espérance. Tu ne verras pas forcément tout ton avenir et jusqu'à la fin, non, mais tu verras le prochain pas, et le prochain pas, et le prochain pas. Et ta vie fonctionnera de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est que vois-tu quand tes yeux sont fermés? Quand tu pries, que vois-tu en ce moment? Est-ce qu'en ce moment, quand tu fermes tes yeux, tu es tout le temps en train de te regarder à toi, à tes faiblesses, à tes manquements? Ah, voici ce qui s'est passé, puis voici pourquoi je... Ou est-ce qu'en ce moment, quand tu fermes tes yeux, tu vas dans la présence de Dieu et tu ne peux que le voir lui? Je t'encourage dans tes temps de prière. Alors que même si tu te dis, en ce moment, c'est vraiment sec, viens dans la présence de Dieu par la louange, par la prière, la méditation, par la lecture de la parole. Dieu va venir et redonner vie à ton âme. Viens fixer tes yeux sur lui. Et quand il y a des pensées mauvaises qui sont là, la parole de Dieu nous dit qu'aucune tentation ne sera au-delà de nos forces. Il va donner la possibilité de dire, non, je ne tomberai pas là-dedans. Non, je n'entendrai plus ce mensonge qui me dit que je ne suis pas assez. Non, je croirai en cette parole et il me donnera la victoire sur mes ennemis, même si c'est moi-même mon ennemi. Dans tes prières, je crois réellement qu'il y a certaines révélations pour notre vie qu'on ne reçoit que dans le jeûne et la prière. Quelqu'un disait, mais la prière, je comprends, c'est de se connecter avec Dieu, mais le jeûne, c'est par rapport à quoi? La prière te connecte à Dieu, le jeûne te déconnecte du monde. c'est de prendre un temps où tu viens dans sa présence. Peut-être en ce moment, tu te dis, c'est sec, j'y arrive pas. Mais avec tes doutes, réellement, amène-les dans un temps de jeûne, coupe un repas et viens manger la parole de Dieu, viens dans sa présence. Et je peux te le dire que tu ressortiras de ce lieu en ayant mangé une nourriture qui est spirituelle. Et ton âme, ton esprit, ton corps te dira, c'est exactement ce que je recherchais. Il faut que nous puissions mettre des temps à part et dans le jeûne et la prière, venir et nous emparer de ce que Dieu a pour nous. Quand Gédéon se voyait comme le dernier des derniers, Dieu l'avait déjà appelé vaillant guerrier, vaillant héros. Dieu croit plus en toi que toi tu ne peux croire en toi. Et c'est la bonne nouvelle, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça que si tu as accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, ce n'est plus toi, tu ne dois plus regarder à tes faiblesses, à qui tu es. Il faut que tu viennes et que tu regardes à l'œuvre de la croix. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Dans la prière, ne viens pas comme un mendiant, viens comme un enfant de Dieu, connais ton identité. Parce que lorsque tu viens, tu prends position, tu prends autorité sur ce qui est en train de te mentir. Tu n'es pas assez, voici tes manquements. Non, je viens pour mes manquements, je viens avec ses accomplissements. Il a tout accompli, c'est pour ça que je peux venir libre dans la présence de Dieu. Alors que j'étais au parc il y a quelques années, en train de prier à midi, j'étais là puis j'avais pris ma Bible et j'avais pris mon cahier de prière. Et je ne suis pas quelqu'un qui tous les jours écrit dans mon journal de prière, mais ce jour-là, j'avais mis un temps à part. Et alors que j'étais là, je me souviens exactement, c'était à Longueuil, au parc Michel Chartrand, j'étais sur le banc là, et puis je regardais la nature. Et j'étais dans un temps où je ne savais plus qui j'étais, qu'est-ce que je faisais ici, pourquoi le ministère, j'avais plein de questions. Et autant il y avait de questions, autant il y avait de combats. Et alors que j'ai commencé à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire, le Saint-Esprit réellement, dans un temps de prière. Et ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est quelque chose de tellement puissant, spirituel, que tout le monde peut expérimenter. J'ai commencé à créer mon crayon et j'étais quelqu'un qui encourageait beaucoup les autres. Mais là, Dieu a dit, mais c'est toi maintenant qui vas écrire ce que moi je veux te dire. Et là, j'ai commencé à écrire les promesses que Dieu mettait au cœur. Et j'ai commencé à écrire en disant, voici ce que Dieu croit, voici ce que Dieu me dit, que je suis enfant, racheté, que je ne dois plus regarder à moi. Et j'étais en train d'écrire ce que Dieu me disait, qui était à propos de moi, selon la parole de Dieu, bien sûr. Et à ce moment-là, je me suis dit, quel Dieu d'amour, quel Dieu patient, persévérant, qui prend du temps pour me parler, celui qui a créé l'univers. Celui qui sait combien il y a d'étoiles, celui qui est tellement immensément grand prend du temps pour m'écouter parce que je suis précieux à ses yeux. Si je suis précieux à ses yeux, tu es précieux à ses yeux et il veut que tu viennes dans sa présence. Ne regarde plus à toi, regarde à lui. Regarde plus à tes œuvres, regarde à son œuvre à la croix. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui relève son peuple? Quand tu doutes de Dieu, crois à sa parole. Quand tu doutes de toi, regarde la présence de Dieu avec toi. Et la troisième chose, comment prier quand je doute des autres? Dieu va appeler Gédéon à aller combattre Madian, mais Gédéon ne va pas y aller tout seul. Dieu va lui mettre des gens autour de lui pour faire une différence dans ce combat. Et pour nous, comment prier quand je doute des autres? On va voir que dans ce texte, alors que Gédéon comprend que okay, la mission c'est pour moi, il va commencer à avancer dans cette bataille. Et Dieu va lui dire, voici, je vais mettre à côté de toi un peuple de soldats qui va aller combattre avec toi. Et alors que Gédéon va être là, les Madianites étaient près de 130 000 soldats. Le peuple d'Israël à ce moment-là était à peu près 32 000 personnes. Alors déjà, le ratio était complètement irréel. Aller se battre contre une armée qui a 100 000 soldats de plus, c'est quasiment de la folie. Mais voici ce que dans Juges 7, chapitre 2 à 7, ça dit. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galaad. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux et il en resta 10 000. J'imagine la tête de Gédéon. OK, on était déjà pas beaucoup, puis là, on en enlève. Tu sais, en speech de motivation, quand tu vas pour drainer les troupes, tu vas pas comme... Non, d'habitude, tu vas, hey, on va gagner, est-ce que vous êtes là? Oui. Mais là, son speech, c'est un petit peu l'anti-speech. Est-ce qu'il y a des peureux ici dans la salle? Rentrez chez vous. Mais c'est pas juste trois personnes, c'est 10 000, 22 000 hommes du peuple qui retournèrent. La quasi-majorité, wow! Mais l'Éternel dit à Gédéon, Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau, et là je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui-ci à propos duquel je dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui à propos duquel je dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Alors Gédéon va prendre le peuple qui reste et va le faire aller dans un lac, dans une mare d'eau pour boire. Et là, à ce moment-là, c'est incroyable parce qu'il y a 10 000 hommes quasiment qui vont arriver et tout de suite, par soif, ils vont tout de suite s'agenouiller et boire directement à l'eau. Ils s'agenouillent tout de suite et ils boivent. Et il y a juste 300 hommes qui viennent et qui prennent l'eau dans leurs mains et qui vont prendre l'eau comme ça. Et on pourrait dire, OK, mais qu'est-ce que ça a à voir? Vous inquiétez pas, quand dans la Bible il y a dit quelque chose et que tu te poses une question, creuse, parce qu'il y a vraiment une perle là-dedans. Dieu dit, c'est exactement par ces 300 hommes qui ne sont pas agenouillés et puis mis la tête dedans directement, c'est par ces 300 hommes qui ont pris l'eau dans leurs mains et qui ont bu, c'est par eux que je te donnerai la victoire. J'imagine là encore la tête de Gédéon. Les ennemis sont plus de 130 000, on est juste 32 000, il y en a 22 000 qui sont repartis, on nous en reste 10 000, et là, j'en en garde que 300. C'est une folie. Gédéon devait sans doute se dire, mais je doutais déjà de partir en guerre avec ce peuple aussi peu nombreux, et là, tu nous en enlèves pour arriver juste avec 300 et nous donner la victoire. C'est comme une folie. Mais Dieu est en train de dire, tout le peuple ne peut pas combattre avec toi. Dieu a fait une sélection pour les hommes qui allaient accompagner Gédéon dans sa victoire. Dieu, en fait, a dit à tout le peuple que les peureux rentrent chez eux. Et en fait, pourquoi il a fait ce tri-là quand il buvait, c'est incroyable, parce que les commentateurs disent, l'interprétation de cette image, c'est que ceux qui sont venus et qui se sont agenouillés et ont mis tout de suite la tête dans l'eau, n'étaient pas soucieux si la menace était à l'extérieur. Ceux qui sont venus ont pris l'eau dans leurs mains, c'est qu'ils pouvaient quand même, en se désaltérant, voir et être sur le qui-vive, avoir la garde levée dans un combat qui peut arriver à tout moment. Alors Dieu est en train de dire, les peureux vont retourner chez eux et les insouciants vont retourner chez eux. Il y a juste les vaillants qui vont rester avec toi et qui vont te battre, qui vont se battre avec toi. Mais en fait, je pouvais me dire, Gédéon a peut-être douté du petit groupe que Dieu est en train de lui donner pour avoir la victoire. Et alors que j'étais en train d'étudier ça, ça me montrait, peut-être ici, dans notre réalité à nous, dans la prière, parfois, on croit et on doute des gens avec le petit groupe, alors qu'on lance la saison des petits groupes Nouvelle Vie pour prier, lire ensemble, confesser nos péchés, avancer ensemble, avoir des amis dans la parole. Des fois, on regarde ça et puis on néglige. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce petit groupe-là avec lequel on va avancer? Mais Dieu veut donner la victoire dans tes combats au travers de ce petit groupe-là. Tout le peuple, toute l'Église ne peut pas venir avec toi dans tes combats. Non! Dieu va faire un tri pour toi, pour que les gens autour de toi, que vous soyez 8, 10, 12, ce petit groupe-là va donner la victoire à Gédéon pour son combat. Il y a un combat que toi seul peux mener, dans ton mariage, dans ton ministère, dans tout ce que tu vis. Tu as ton combat à mener. Dieu a déjà eu la victoire, mais il veut te donner en ce moment des gens autour de toi pour te soutenir, des gens qui vont combattre ton combat. Quand on se réunit en petit groupe et qu'on commence à expliquer, voici en ce moment, priez pour moi s'il vous plaît, je vis une situation difficile. Les 8, 10, 12 personnes autour commencent à prendre les armes spirituelles et commencent à combattre avec nous. Et on a la victoire ensemble parce que dans la prière, quand 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là, il donne une faveur. Quand son église se rassemble, il y a une faveur qui est là. Alors est-ce qu'on peut croire que... Non, toute l'Église va combattre avec moi. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que toute l'Église connaisse tes combats et qu'on combatte les uns avec les autres. Par contre, si l'Église devient des petits groupes et des centaines de petits groupes, et là, alors qu'on prenait les inscriptions dans la dernière semaine, il y a des dizaines de petits groupes qui commencent à naître, des groupes spécialisés sur l'anxiété, sur les choses. Il y a tellement de groupes, il y en a un groupe pour tout le monde parce que tu n'as pas besoin que tout le peuple aille avec toi. Combattre, tu as besoin d'un petit groupe. Gédéon pensait que le peuple allait venir avec lui. Dieu, il a dit, non, on va faire un tri et il y a un petit groupe qui va venir avec toi et qui va combattre avec toi. Tu as besoin de gens qui t'entourent et Dieu va faire le tri. Crois que quand tu vas aller t'inscrire à un petit groupe en disant, OK, cette année 2023, je ne veux plus marcher seul dans ma vie spirituelle, je veux pouvoir grandir, soutenir des gens, être soutenu dans ma foi. Crois que Dieu va te donner exactement les bonnes personnes pour son groupe. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui prend soin de nous? Dieu va donner la victoire à Gédéon à travers un petit groupe. Combien ici? Tu combats tes combats en ce moment seul. Mais Dieu veut te donner des stratégies dans tes combats, mais à travers des gens qui vont te conseiller, qui vont te rappeler la parole, qui vont prier avec toi, qui vont te soutenir. Quand tu n'auras plus envie de prier, qui vont te dire « Hey, je vais prier pour toi ». C'est pour ça que je crois autant à l'église locale. C'est pour ça que je crois réellement que notre vie spirituelle ne doit pas être seulement individuelle. Oui, tu as du temps à passer seul dans la parole de Dieu, seul dans la présence, seul dans tes prières. Il y a des choses que Dieu va te révéler directement. Mais aussi, Dieu donne une révélation aussi, je crois, quand son peuple se réunit et dit « Seigneur, on cherche ta volonté pour nos vies, pour nos combats, pour nos familles. » Et alors qu'on arrive à la fin de ce message, voici la tactique que Dieu a donnée à Gédéon pour justement avoir le combat. La tactique que Dieu a donnée à Gédéon, c'est que voici, vous allez encercler Madian de nuit. Alors les 300 hommes, Gédéon leur a donné une corne, donc c'était comme une trompette, dans le texte ça dit des trompettes, mais c'était un signal de l'armée justement pour dire là on s'en va au combat. Donc il leur donne aux 300 un genre de corps, et il leur donne une cruche, un vase, puis on a une photo qui est là, un genre de vase de terre, une cruche, dans lequel il y avait un flambeau. Et en fait, c'était pour cacher la lumière, cacher le feu à l'intérieur de la cruche. Et voici la tactique. Tu vas dire aux 300 d'aller encercler le peuple de Madian qui est là, et la nuit, tout le monde dormait. Ils vont encercler ce peuple-là. Et au signal, Gédéon va dire maintenant, brisez les cruches, sonnez la trompette et faites en sorte que la lumière luise. Et alors que c'était une tactique à l'époque au niveau militaire, c'est que d'habitude dans une armée de peut-être plusieurs milliers de soldats, les militaires sonnaient de la trompette pour dire maintenant on y va. Mais il y avait peut-être 4, 5, 6 personnes qui sonnaient. Là, quand Gédéon, ils étaient juste 300. Il y a 300 personnes qui ont soufflé dans un corps. Les Madianites ont, eux, cru qu'il y avait des millions de soldats, tellement il y avait de son. Et à ce moment-là, lorsque les cruches ont été brisées et que le feu a brillé, la lumière a été, et les Madianites, eux, se sont complètement été confondus. Et Gédéon et son armée ont eu la victoire sans avoir même besoin de combattre un à un. Ils étaient en sous-nombre, mais Dieu leur a donné une stratégie spirituelle qui veut te donner à toi aussi spirituellement. Au travers d'un petit nombre, tu dis mais mes combats sont trop hauts, sont trop grands, mes géants sont trop grands, comment je vais faire pour avoir la victoire? Dieu te dit, c'est pas par tes forces, c'est pas par tes stratégies à toi, c'est pas par une logique humaine, c'est par une logique divine. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes humaines, elles sont spirituelles, mais c'est puissant. Est-ce que ceux qui l'ont déjà vécu peuvent applaudir notre Dieu? Et alors que les musiciens vont venir et qu'on va prier dans quelques instants, ces vases-là nous rappellent quoi? Ce texte dans Gédéon, alors qu'encore je l'étudiais, puis je vous le conseille, je vous défie de le lire, s'il vous plaît. Prenez du temps cette semaine et lire Juges 6, puis lire les chapitres de la vie de Gédéon. Vous allez voir, Dieu va vous révéler des choses. N'attendez pas juste de venir à l'église pour lire et comprendre la parole. Allez dans votre temps personnel et Dieu va vous révéler des choses. Et si vous avez des questions, allez dans un groupe, vous allez en parler ensemble. Et c'est là où nous devons grandir les uns avec les autres. Et voici ce que 2 Corinthiens 4, verset 7 dit. Des milliers d'années, Paul a écrit. Nous portons ce trésor en parlant du salut, en parlant de la lumière de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes à la représentation de ces vases qui gardaient ce flambeau. Nous sommes ces vases de terre. Mais la lumière qui est à l'intérieur de nous, il y a des choses qui doivent être mis à la lumière de tous. Et au plus tu vas t'ouvrir aux autres, au plus tu vas briser ton orgueil, au plus tu vas dire « je ne vais plus rester seul, je ne vais plus rester dans le noir ». Non, il faut que la lumière qui est à l'intérieur de moi brille pour que j'aie la victoire avec mes frères et sœurs sur mes combats. Et il y a aussi d'autres choses, c'est qu'au plus tu t'ouvres, au plus la lumière peut venir et mettre le doigt sur les ténèbres que tu as à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose de fort que dans ce texte-là, dans ces illustrations qu'on voit, oui, c'est millénaire, oui, c'était des combats qu'aujourd'hui, nous n'avons plus à vivre comme cela. Mais spirituellement, c'est les mêmes choses. Les principes de la parole de Dieu transcendent les générations, transcendent les cultures. La même vérité, la même tactique que Dieu a donnée à Gédéon, c'est la même spirituellement qu'il nous donne pour nous aujourd'hui. Si tu doutes de Dieu, crois à la parole de Dieu. Continue de la lire. Même si tu dis « Ah, c'est difficile », Dieu te parlera. Si tu doutes de toi, regarde à la présence de Dieu dans tes combats. Dieu a déjà eu la victoire, tu as juste à tenir droit dans tes combats. Et si tu dis, il y a trop de tentations, trop de choses en ce moment, c'est trop difficile. Aie confiance que Dieu a déjà tout accompli et que tu as juste à tenir droit jusqu'au jour où il reviendra nous chercher. Et on sera dans la gloire. Et on aura la victoire sur toutes nos peines, nos échecs. Nous serons avec lui pour l'éternité. Mais en ce moment, tu n'es pas appelé à combattre seul. Dieu veut mettre autour de toi, par l'église locale, des gens qui vont te comprendre, des gens qui vont te défier, des gens qui vont te reprendre, des gens qui vont te soutenir, t'encourager. Et avec eux, dans le brisement de notre orgueil, dans le brisement de tout ce qu'on veut garder caché, la lumière de Christ viendra et montrera à l'ennemi que nous sommes plus nombreux spirituellement que toutes les attaques spirituelles qui peuvent venir. Le doute, tu peux croire que non, mais qu'est-ce qu'un petit groupe va faire dans ma vie? Dieu veut te donner des victoires au travers de ce petit groupe-là. Et Dieu veut se servir de toi et de ta lumière. Quand tu vas t'ouvrir et dire, j'ai déjà vécu ce combat, mais voici comment Dieu a agi. Et toi, tu vas aider quelqu'un dans son combat. Ne vis pas ta vie seule. Dieu ne nous a pas créés pour être seuls individuels. Il nous a créés pour que nous soyons des êtres communautaires. Et dans l'Église, nous avons besoin de briller. Non seulement pour nous, mais pour accueillir des dizaines de milliers qui viennent et qui n'ont aucune idée comment on peut avancer, comment on peut connecter avec Dieu. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de moi. Ils ont besoin d'une Église qui brille de la lumière de Christ. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu de se servir de nous? Quand tu t'ouvres aux autres, c'est alors que la lumière se fait. Quand tu te brises devant Dieu en prière, « Seigneur, j'ai besoin de toi », même malgré mes doutes, tu brises ce vase de terre, tu brises ce vase d'orgueil, tu dis « Non, 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 je veux que ta lumière, lui, j'ai besoin de toi ». À chaque fois que tu viens et que tu t'ouvres à Dieu, Dieu vient et par sa lumière, il te parle. Alors que je parlais avec deux personnes différentes cette semaine, deux hommes, deux backgrounds complètement différents. Un qui a grandi dans l'église depuis toujours. Sa famille était chrétienne, puis il a grandi. Mais c'était que l'année dernière, à travers une situation tellement difficile, qu'il s'est réellement consacré à Dieu. Qu'il a réellement commencé à lire la Bible et à commencer une relation personnelle avec lui. Au lieu de suivre les traditions familiales, au lieu de suivre une certaine religion évangélique, il a commencé à dire « Non, non, j'ai tellement besoin de Dieu personnellement que personne d'autre peut combattre mes combats que moi ». Et alors, il est devenu un homme de prière, un homme de la parole. Il a été dans un groupe pour la première fois dans sa vie, alors que chaque année, il entendait la même annonce. Mais c'était dans ce combat-là qu'il a vu l'importance de la parole de Dieu, de la présence de Dieu et du peuple de Dieu. Aujourd'hui, n'attends pas de tomber au plus bas dans ta vie pour te bien t'entourer. Entoure-toi bien aujourd'hui, parce que dans le jour du malheur, tu verras que tes amis, en fait, sont des frères. Tu verras que tes amis autour sont des sœurs, sont des gens qui t'aiment bien plus que parfois les gens qui t'entourent. Il faut que tu sois bien entouré spirituellement. La deuxième personne que j'ai rencontrée, c'est quelqu'un qu'on a baptisé à l'automne dernier. Et lui, ça faisait quelques mois qu'il était venu à l'église parce qu'il cherchait, il avait des questions spirituelles. Il a été sur Google, comme quoi Dieu se sert de la technologie pour mes amis en ligne. Et alors qu'il cherchait, il est tombé sur un plan sur l'application Bible. Il a téléchargé une Bible sur son téléphone. Il est tombé sur un plan de lecture qu'on avait fait ici à Nouvelle Vie sur les Proverbes. Et alors qu'il était en train de le lire, il s'est dit « Waouh, il y a quelque chose là-dedans. C'est un petit paragraphe, mais ça m'amène à me poser des questions, puis j'ai l'impression que Dieu me cherche. » Il a commencé à taper le nom de l'église. C'est où l'église Nouvelle Vie? Il est arrivé à l'église. Et là, à chaque message, il dit « Dieu me parlait comme si c'était à moi. J'étais le seul dans la salle. » Oui, c'est ça que Dieu fait. Au travers des simples mots, au travers des simples louanges qu'on donne ici, la puissance de Dieu par son Saint-Esprit vient nous rejoindre dans nos combats, dans notre cœur, dans ce que tu vis, dans ta situation. Et ce n'est pas de la motivation qu'on fait, c'est la parole de vérité qui vient changer complètement notre vie et pour l'éternité. Et alors qu'il était là, il était tellement encouragé parce qu'il dit « je lis la Bible et puis quand j'ai des questions, je vais à mon groupe ». Leurs deux niveaux spirituels sont différents, mais ils ont compris la même chose. La parole de Dieu, la présence de Dieu et le peuple de Dieu. Les deux sont dans un groupe et ils disent « combien ça m'aide ». Et je crois réellement que ici tous, nous avons besoin de comprendre ces trois choses. Quand tu doutes de Dieu, viens dans la parole de Dieu. Quand tu doutes de toi, comprends la présence de Dieu et regarde à elle. Mais quand tu doutes des autres, qu'est-ce que je peux faire avec... Crois que Dieu, par son peuple, te donne la victoire. Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux un instant? Je vais prier pour une église qui est un modèle dans toute la francophonie. On est une église qui se base sur la parole de Dieu et rien ici n'est prêché de notre conseil simplement, mais du conseil de Dieu tiré dans la Bible. On est une église qui se veut être dans la présence de Dieu et proclamer que la présence de Dieu est accessible partout, en tout lieu. Une église qui croit dans les groupes et qui, depuis des années, au centre de tout, on met les petits groupes parce qu'on croit que Dieu se sert du peuple de Dieu. Mais je crois qu'on a encore besoin d'avancer et de grandir. On ne veut pas s'asseoir en disant « Est-ce qu'on fait, c'est bien ?» Non, non, Seigneur, aide-moi dans cette année, en ce mois de janvier 2023, à aller dans un autre, dans une autre étape de ma vie spirituelle. Je veux comprendre encore plus de choses. Je veux aider quelqu'un à prier, peut-être qu'il n'a jamais prié de sa vie. Et sers-toi de moi pour avoir la victoire dans les combats. Seigneur, donne-moi d'être brisé dans mon orgueil, d'être brisé dans ce que je veux garder isolé, dans peut-être les péchés que je garde et que je ne veux dire à personne. Seigneur, tu dis que celui qui confesse son péché à toi, il y a le pardon. Mais tu dis dans ta parole que quand on confesse nos péchés les uns les autres, tu nous donnes la guérison. Seigneur, donne-nous de comprendre l'entièreté de ta parole et de la vivre. Pas seulement de la connaître, mais de la vivre. Seigneur, je te prie aujourd'hui pour des personnes qui sont peut-être ici et qui, oui, comprennent ton amour, mais en ce moment, ils n'ont jamais accepté ton amour. Ils ne t'ont jamais accepté comme leur sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, je veux prier pour toi, si c'est ton cas aujourd'hui. Si tu dis, ouais, j'entends ton message, je voudrais vivre ça, mais en ce moment, il y a comme une barrière. Dieu t'appelle à faire la paix avec lui. Il est venu à toi. Il a, à la croix, envoyé son Fils, celui qui était parfait, pour porter sur lui tout ton péché, tous tes échecs, toutes tes fautes. Et il a dit, parce que toi, tu ne pouvais pas atteindre Dieu, Dieu est venu et il t'a atteint. Et maintenant, tu peux être libre en Jésus-Christ. Tu peux être complètement pardonné de ton péché. Tu peux vivre dans une liberté dans tes addictions, être délivré des choses qui te tiennent captif. Et aujourd'hui, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est sauveur et qu'à la croix, oui, il a pris mon péché, je le crois. Il est mort pour me donner sa vie. Et Dieu l'a ressuscité et il est parti nous préparer une place parce que même dans cette vie, une fois que ça va se terminer dans cette vie, je le rejoindrai pour l'éternité. Et c'est ça l'assurance de mon salut que je veux aujourd'hui. Alors si c'est ton désir aujourd'hui, fais juste cette prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour qui je suis, pour tout ce que j'ai fait. Mais je comprends ton amour envers moi et qu'à la croix, tu as donné ton Fils pour que je reçoive sa vie. Aujourd'hui, je suis pardonné de mon péché. Aujourd'hui, je suis accepté. Aujourd'hui, je suis aimé et je te donne ma vie au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on pourrait applaudir tous ceux qui ont fait cette prière aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? Et alors qu'on a parlé de cela, qu'on puisse chanter ce chant qui dit « Mon espoir est en Christ ». Que son amour puisse venir inonder nos cœurs. Et aujourd'hui, que ce ne soit pas juste des bons conseils que vous receviez. Que cette parole-là, vous la mettiez en pratique. La parole de Dieu, la présence de Dieu et le peuple de Dieu. Si vous voulez répondre à ce message, allez vous inscrire à un groupe Nouvelle Vie dans le kiosque. Dans le hall, il y a des kiosques en ligne, vous pouvez le faire. Que vous soyez partie d'une communauté parce que Dieu veut vous donner la victoire dans vos combats à travers le peuple de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui le croient ici? Est-ce qu'on peut donner une ovation à Dieu en l'acclamant? Parce qu'il prend soin de nous. Et malgré nos doutes, il est là, il nous aime. Il est toujours là, il nous recherche. Alors on va chanter que notre espoir est en lui et que son nom est plus grand. Est-ce que vous êtes là ?